Bien, nous allons continuer notre parcours dans le livre de Daniel, au chapitre 3. C'est probablement l'histoire la plus connue du livre de Daniel, après peut-être l'épisode où Daniel est envoyé dans la fosse aux lions. J'espère que vous avez lu cette histoire, au moins lorsque vous étiez petit. Dans notre texte, Daniel n'est pas présent dans ce que nous allons lire tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'il devient à ce moment-là, on ne sait pas où il est, rien n'est dit à ce sujet-là. Mais il est question des amis de Daniel, d'Ananias, de Michaël et d'Azaria, plus souvent connus sur leur nom babylonien, de Shadrach, Meshach et Abednego. Et le texte nous raconte que ces trois amis désobéissent au roi de Babylone. En fait, ils désobéissent à un appel royal de se prosterner devant une statue au son de la trompette, au son de la... Enfin, tout un tas d'instruments qui sont cités dans le texte. Et ces jeunes gens décident qu'ils ne se prosterneront pas devant cette statue. Encore une fois, nous parlons de jeunes gens qui sont prisonniers de guerre, et ça, il ne faut pas l'oublier. Des prisonniers de guerre, des exilés dans un pays qui n'est pas le leur, obligés d'apprendre une langue, une culture, une littérature, une coutume, une religion qui ne sont pas les leurs. Ils ont été pourtant formés pour être conseillers du roi, les meilleurs de leur catégorie. On le voit au chapitre 1. Et pour résumer, ce sont des jeunes juifs enseignés à adorer le seul vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et qui se retrouvent maintenant dans un pays païen, menacés d'être tués parce qu'ils ne souhaitent pas s'adonner à une pratique qui contrevient à leur religion. Autant, tout au long de leur parcours, ils n'ont jamais cessé ou cédé plutôt à la pression. Ils n'ont jamais remis en question leurs propres valeurs, et ça c'est remarquable, ni leur relation avec Dieu, ni même leur identité dans le Seigneur, en Dieu. Et donc même s'ils étaient dans un environnement, on peut dire hostile, qui ne l'était pas favorable, ils sont restés fidèles à Dieu, ils sont restés solides, fermes dans le Seigneur en face de l'adversité. Et dans le chapitre 2, nous avions vu que Daniel et ses amis étaient de très jeunes hommes lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, probablement entre 15 ans et 20 ans, pas très précis, mais on les décrit comme étant des jeunes gens. D'accord ? Et nous avions vu également qu'ils étaient aussi menacés dans le chapitre 2, parce que le roi avait eu un rêve, il ne s'en rappelait pas. Il avait convoqué des personnes, en tout cas des sages, des Chaldéens, et c'est pas par hasard, les Chaldéens, pour lui dire ce qu'il avait rêvé et ce que ça signifiait. Bien sûr, ses propres sages, conseillers, ne pouvaient pas résoudre le problème, et alors il a décidé de tuer tout le monde. Vous voyez, on voit un petit peu quel genre de bonhomme c'est Nabucodonosor. Daniel ensuite reçoit le songe, après prière avec ses amis, il reçoit une révélation de Dieu concernant le rêve du roi et ce que ça signifie, l'interprétation. Ensuite Daniel se rend auprès du roi, lui dévoile tout ce que Dieu lui avait communiqué, et le roi est tellement impressionné de ce que Daniel a pu dire son rêve et l'interpréter, qu'il s'est mis à reconnaître en leur Dieu le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Alors n'y voyez pas là une conversion, parce que ce n'était nullement le cas. Et le chapitre 3 est là pour le prouver. Mais de sa propre bouche, je le souligne, c'est remarquable ce qu'il dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs, et il révèle les secrets. Il reconnaît donc que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre reconnaître sur le coup, dans un moment, je ne sais pas moi, d'exaltation, que Dieu est Dieu, oui, et s'abandonner à lui pour la vie? Il y a une grande différence entre dire que Dieu est Dieu et le recevoir comme Seigneur de sa vie. Et Nabucodonosor, à ce moment, était ce genre de personne qui reconnaissait sur le coup que Dieu est Dieu à cause de ce qu'il a vu faire, mais qui n'a pas vécu une conversion concrète. Il ne s'était pas abandonné à Dieu. Les biblistes nous disent qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il a pu se passer environ 20 années. Alors bien sûr, lorsque nous lisons les récits bibliques, bon, les chapitres se défilent et puis on n'a pas cette notion du décalage dans le temps. Mais ayez en mémoire, à l'esprit, que les gens ont grandi. Ils ont pris de l'âge, à peu près 20 années sont passées, et Daniel et ses amis ont environ 30 ans lorsque l'histoire est racontée. Et le roi Nabucodonosor, ayant oublié le Dieu dont il avait fait les louanges au chapitre 2, au chapitre 3, il érige une statue, à peu près 20 ans après, et il promulgue un décret exigeant que tout le monde, au son de la musique qu'ils vont entendre, puisse se prosterner devant ce Dieu. Et je vous propose de lire des versets plutôt 1 à 18 pour voir ce qu'il en est. Daniel 3, versets 1 à 18. Vous êtes là. Daniel 3, 1 à 18. Le roi Nabucodonosor fit une statue d'or, haut de 60 coudées et large de 6 coudées, et il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabucodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabucodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nabucodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nabucodonosor. Le héros cria avec force : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les hommes ou tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nabucodonosor. C'est marrant, cette répétition qu'il y a à chaque fois de certaines choses, surtout les instruments de musique. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabucodonosor, « Au roi, vis à jamais. » Au roi, tu as donné un ordre, d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels, quiconque ne se prosternerait pas et n'obéirait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor, irrité, furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de votre propre liberté, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu qui vous délivrera de ma main ? Il est arrogant, le gars. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Jusque-là. Et je vous invite à la prière. Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs en ces instants. Que nos oreilles, Seigneur, soient grandes ouvertes, les oreilles de nos cœurs soient grandes ouvertes. Que nous puissions recevoir ce que tu as en réserve pour nous, ce que tu veux que nous recevions. Et Seigneur, que tu puisses ainsi fortifier notre foi et notre connaissance de toi. Que tu nous aides à encore savoir qui tu es. Seigneur, donne-nous encore de nous attacher davantage à toi, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'êtes-vous prêt à endurer à cause de votre foi ? Qu'êtes-vous prêt à endurer à cause de votre foi ? En face de l'adversité, serez-vous une personne pleine d'audace pour le Seigneur ou serez-vous une personne faisant preuve de timidité s'agissant des affaires de Dieu ? Ou alors, à quel point faites-vous confiance à Dieu lorsque la situation paraît vraiment obscure ? Ou si je dois le dire autrement, est-ce que l'Éternel est toujours votre berger ? Lorsque vous avancez dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce sont ces questions auxquelles sont confrontés Shadrach, Meshach et Abednego en ce moment précis, dans l'histoire que nous lisons. Et nous allons essayer de répondre et voir de quelle façon eux, ils ont géré la situation dans laquelle ils se trouvent, pour en tirer après des leçons pour nous. Il faut se rappeler, des chapitres précédents, de ce que ces trois hommes étaient des hauts fonctionnaires de l'Empire babylonien. Le roi les avait déjà élevés à ses rangs. Ils étaient aussi concernés par le décret qu'a promulgué le roi, comme tous les autres. Les magistrats et compagnie, tous ceux qui ont été cités dans le texte, ils faisaient partie de cela. Et ils étaient aussi conviés à ce rassemblement pour l'inauguration de la statue que Nabuchodonosor a érigée. Et eux aussi, ils étaient invités à se prosterner devant cette statue. Sans doute que cette statue, bon, on dit qu'elle était d'or, mais sans doute qu'elle n'était pas en or massif, peut-être du plaquage, parce que ça faisait beaucoup d'or quand même. Hein. Rappelez-vous, hein, 3 mètres de large, 30 mètres de haut, un peu disproportionné la statue, mais quand même. Ça ressemblait au loin plutôt à un poteau. Et il fallait se prosterner devant cet objet. Mais il nous dit qu'au moment où les gens entendaient la musique avec toutes sortes d'instruments, quel que soit ce que les gens faisaient, ils devaient s'arrêter, se prosterner devant la statue d'or pour l'adorer. En plus, les personnes qui désobéiraient seraient jetées dans une fournaise ardente. Et il nous dit ensuite que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'obéir à ce décret. Et pour cause, c'était une violation directe de la loi de Dieu. Une violation directe, plus précisément, du deuxième commandement qu'on retrouve dans le livre d'Exode au chapitre 20, versets 4 et 5. Et il dit ceci, je cite, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Rappelons-nous que ces bonhommes-là sont arrivés à Babylone vers l'âge de 15-16 ans. Ça veut dire qu'ils sont arrivés avec au moins 15-16 années d'une foi ferme et solide dans la foi hébraïque, bien sûr, mais dans la foi de leurs pères avant eux, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient compris que la loi de Dieu, ou alors ce qu'était la loi de Dieu, et ils avaient une relation aussi avec ce Dieu-là. Alors quand on leur demande de se prosterner devant une statue, vous voyez bien que ça fait tilt dans la tête. Deuxième commandement, attention. Et ces bonhommes-là se sont dressés pour la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Il y a un moment où, lorsque la désobéissance civile peut s'avérer être nécessaire. Et entendez-moi bien, je n'appelle pas à l'anarchie, mais il y a des cas, des circonstances. Bien sûr, nous on est à l'aise pour le moment. En France, demandez-vous pourquoi il y a des chrétiens dans d'autres pays ou ce qu'on appelle l'église persécutée. Il y a des fois où, lorsque les situations adviennent, hein, la foi chrétienne, elle est en contradiction avec ce que propose le pays dans lequel on se trouve, la ville dans laquelle on se trouve, le quartier dans lequel on se trouve, et auquel cas on se doit de manifester sa désapprobation. Ce que je dis, c'est qu'un disciple de Jésus-Christ, lorsque la loi des hommes contredit la loi de Dieu, eh bien, ce disciple-là doit se lever et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons doit être mis au-dessus de tout. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un discours de notre ministre de l'Intérieur, et qui disait qu'il n'y a rien au-dessus de la loi de la République. Et là, il s'adressait en direction de ce qu'on appelle l'islamisme. Qu'en est-il de nous ? Nous aurions bien des choses à redire de cette loi de la République. Malheureusement, et bien souvent, nous nous taisons. Parce que nous estimons que ce n'est pas notre combat. Mais le jour où ça rentrera, et ça rentre déjà, parce que nous n'avons même pas les moyens, par exemple, de corriger nos enfants, comme il conviendrait, ou bien autre chose, parce que l'État dit que, parce que la loi dit que, La loi a dit qu'il faut marier, on peut marier deux personnes de même, le même sexe. Alors que la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Des actes contre nature, la Bible appelle cela, en contradiction avec les commandements de Dieu. Et les disciples de Jésus-Christ doivent se dresser contre cela. Dans les Écritures, il y a d'autres exemples de désobéissance civile. Par exemple, en Exode, lorsque le peuple d'Israël, qui n'était pas encore peuple d'Israël, qui était juste des Hébreux, en esclavage, lorsque le Pharaon, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, demande aux sages-femmes hébreux de tuer les petits garçons qui naissent des femmes hébreux, qu'est-ce qu'elles font? Elles désobéissent. Elles prétendent que les femmes hébreues sont trop vigoureuses. Elles ont le temps d'accoucher avant même que nous puissions arriver. Elles ont désobéi, clairement. La Bible nous demande de craindre Dieu plutôt que les hommes. Et c'est ce que Pierre et Jean ont répondu lorsqu'on leur a demandé d'arrêter de prêcher dans les rues. Ils ont dit non, on ne peut pas. On ne peut pas obéir aux hommes et désobéir à Dieu parce qu'il nous a expressément demandé de prêcher sa parole. Il y a parfois des situations de conflit entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Et lorsque cela arrive, le Seigneur nous demande d'obéir à ses commandements plutôt qu'à la loi des hommes. Et ce malgré les conséquences que cela peut engendrer. Et Shadrach, Meshach et Abednego étaient devant ce cas, prêts à subir les conséquences de leur choix. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je ferais? Qu'aurais-je fait si j'étais dans leur cas? Si tu ne te prosternes pas, tu brûles. Et vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes ont été brûlés. Au premier siècle, les chrétiens ont été martyrisés à cause de leur foi. Et têtés, brûlés sur des bûchers, lâchés dans des arènes, à cause de leur foi. Et vous savez quoi? Il s'avère que ces trois hommes-là, ces trois amis-là, ont été dénoncés. Certains conseillers du roi, des Chaldéens, nous dit-on. Et quand on dit des Chaldéens, il faut comprendre que ce sont des personnes, comme on dit au pays, aux mains sales. Des personnes qui ont un lien avec le monde occulte. Des personnes peu fréquentables. Pourtant, ils étaient au service du roi, conseillers du roi. Et c'est eux, remplis de jalousie, qui vont voir le roi pour lui dire... Au roi, tu sais, tu as promulgué une loi là, qu'on devait se prosterner devant la statue que tu as érigée. Mais il y a des juifs là, ils servent ni tes dieux et ils ne se prosternent pas devant la statue que tu as érigée. Et ce que la loi exige, c'est qu'ils soient mis dans le feu. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous attendons de toi que tu appliques la loi et que tu mettes ces personnes-là dans le feu. Jalousie, hein. Ces bonhommes-là ont trouvé une occasion de se venger. Parce que rappelez-vous, au chapitre 1, chapitre 2, Daniel et ses amis les avaient surpassés, les avaient surclassés. Ils avaient pu trouver le rêve et la signification de ce rêve pour le dire au roi, le rendant minable devant le roi. Déjà, le roi avait prévu de tuer tout le monde. Et là, ils ont une occasion de faire payer les amis de Daniel. Les trois bonhommes que tu as placés à la tête des provinces de Babylone, eh bien, ils n'obéissent pas à ta loi. Il est dit au verset 13 que Nabucodonosor était furieux. Et on voit qu'il les aimait bien, malgré tout, parce qu'il leur donne encore une chance. Il les fait convoquer et il leur dit, les gars, bon, on m'a dit ça, mais peut-être que c'est... Vous n'avez pas fait exprès. Je vous donne une autre chance. Est-ce que vous êtes prêts? Je fais ressentir la musique et après ça, vous vous prosternez, vous adorez la statue que j'ai érigée, ni vue ni connue, et ça se passe bien pour vous. Eh bien non. Ces jeunes bonhommes, ayant résolu dans leur cœur ce qu'ils avaient déjà décidé, eh bien, ils disent non. Ils disent non. Et ils entendent camper sur leur position. Malheureusement pour le roi, ces bonhommes-là étaient aussi déterminés que lui. Et la première chose que leur réaction nous apprend, par exemple, c'est une définition biblique de la foi. En termes bibliques, la foi, alors bien sûr, je ne nie pas que vous connaissiez la définition qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Mais vous savez, je me suis longtemps battu avec cette définition-là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, concrètement? La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, les choses. Allez dire ça à un jeune. Trois sortes de foi sont mentionnées dans les Écritures, par exemple. La foi qui sauve, qu'est-ce que c'est? C'est la foi que nous mettons en œuvre lorsque nous venons au Seigneur, la foi qui nous permet d'avoir le salut, comme le dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres. Nous sommes sauvés parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Et cette sorte de foi, c'est la foi qui sauve. Deuxièmement, nous avons le don de la foi que nous avons vu mercredi dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. L'Esprit de Dieu donne à certains une mesure de foi que tous les chrétiens n'ont pas. De sorte que dans des situations difficiles ou lorsque le chrétien naturel ou le simple chrétien ferait marche arrière, eh bien, il y en a un qui dirait « On peut le faire. On peut le faire, on peut y arriver. Bon, » en général, c'est celui qu'on déteste tous, mais « On peut le faire. Il faut avancer, il faut y aller. » Et puis la foi, une foi de confiance. Celle que Daniel et ses amis exercent dans cette situation. En tout cas, les trois amis de Daniel. Une foi, lorsque l'on croit en Dieu, et lorsqu'on croit qu'il peut intervenir en notre faveur, eh bien, on met toute sa confiance dans cette croyance. C'est cette foi dont il est question ici. Dans le chapitre 3, versets 16 à 18. Et la réponse de ces trois hommes à Nebuchadnezzar, verset 27, est remarquable. Ils lui disent, si c'est là l'ultimatum que tu nous fais, si c'est là nos deux seules options, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, et c'est là que ça devient remarquable, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et ce sinon-là veut dire que même si notre Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Nous ne servirons pas tes dieux. Ça, frères et sœurs, c'est de la vraie foi. C'est de la confiance en Dieu. C'est de la foi ferme, confiante. Peut-être le meilleur exemple de foi qu'on peut trouver dans les Écritures. Notez qu'ils n'ont pas présumé de l'action de Dieu. Ils n'ont pas dit que le Dieu que nous servons nous délivrera. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont mis aucune obligation sur Dieu. Ils ont juste dit que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et vous savez, malheureusement, beaucoup de personnes croient que la vraie foi, c'est de confesser le résultat désiré. On met la charrue avant les bœufs. On veut ce résultat-là, et puis on confesse. Vous n'avez jamais entendu ça? Que si vous croyez à une chose particulière et que vous confessez cette chose suffisamment longtemps, avec fermeté et hardiesse, ben Dieu, il est obligé de le faire. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible, moi. Comme si Dieu était notre obligé. Comme si Dieu était à nos ordres. Ce n'est pas la vraie foi. Ou tout du moins, c'est la foi dans le résultat attendu, mais pas la foi dans le Dieu qui est capable d'accomplir ce que nous lui demandons. Il y a une grosse différence là. Ce que l'histoire de ces trois hommes nous enseigne, c'est que, premièrement, la foi devait être dans les capacités de Dieu et pas dans le résultat attendu. J'ai confiance en Dieu et pas dans le résultat que je veux. J'entends bien que la parole de Dieu nous dit que nous devons prier de manière spécifique. Par exemple, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6. Ou alors, nous devons croire et ne pas douter, selon Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais nous devons croire et ne pas douter dans les capacités de Dieu et pas dans les résultats que nous voulons. Pas dans les résultats eux-mêmes. Et ça, c'est une distinction importante. On entend trop souvent des personnes qui s'amusent à confesser les résultats qu'ils attendent en pensant que ça, c'est la vraie foi. Peut-être de l'idolâtrie, mais pas la confiance en Dieu, en tout cas. Et c'est pour ça que la confession de ces trois amis-là est remarquable. Même si, sinon, notre Dieu est capable, hein, mais même s'il ne le fait pas. La vraie foi, ce n'est pas la foi dans ces résultats-là. C'est la foi dans les capacités de celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Deuxièmement, Dieu n'opère pas en fonction de ce que nous souhaitons, mais selon sa volonté. Parce que sa volonté est parfaite. Sa volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour vous. Et il se peut que sa volonté ne soit pas la mienne ou la nôtre. Et vous savez quoi? Une de ses volontés est toujours la meilleure. Et en général, ce n'est pas la nôtre. C'est la volonté de Dieu qui est la meilleure. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons toujours, comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, dire « Non pas ce que je veux ». Pas à la place de Jésus, qui, au moment où il porte tout le fardeau du monde, dit à son père, il n'y a pas un autre moyen. Parce que s'il y a un autre moyen, je la préfère. Je la préfère. Mais ce n'est pas ce que je veux qui compte. C'est ce que tu veux. Et vous savez quoi? Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus. Si lui, dans le pire moment de sa vie, met sa priorité sur la volonté de Dieu, sur ce que veut son Père, qui sommes-nous pour agir autrement? Certainement, réciter la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite. Et c'est toujours ainsi qu'il faut que nous prions, sans remettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, loin de là, bien au contraire. C'est une prière qui reconnaît que Dieu seul sait ce qui est le mieux pour nous. Et nous devons nous soumettre à sa volonté. Troisièmement, ce ne sont pas les résultats qui définissent ma relation avec Dieu. Ce ne sont pas les résultats qui définissent ma relation avec Dieu. Parce que ici, l'engagement de Shadrach, Meshach et Abednego ne dépend pas de ce qu'ils allaient advenir. Leur engagement ne dépend pas ou ne dépendait pas des résultats. Leur engagement ne dépend pas de ce que Dieu allait faire ou n'allait pas faire. Allait-il nous délivrer ou pas? Et on entend souvent les personnes passer à marcher avec Dieu. Si tu, je. Ce n'est pas ce qu'ils disent, eux. Bien au contraire, au verset 22, 18, sinon, Dieu est capable, hein? Il est capable. Mais dans le cas où il ne le fait pas, nous restons fermes. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Parce que le deuxième commandement me dit que tu ne te feras pas d'image taillée et que tu ne te prosterneras pas devant quoi que ce soit qui ressembla à quelque chose d'en haut dans le ciel, ou en bas sur terre, ou plus bas que la terre. Je reste ferme à cette parole. Ces personnes-là avaient une relation avec Dieu, et qui allait au-delà des résultats. Une relation qui était plus profonde que leur désir propre. De sorte que même si les choses ne se présentaient pas comme ils le souhaitaient, cela n'aurait aucune incidence sur leur confiance en Dieu. Contrairement à nous, souvent, où lorsque Dieu ne fait pas ce qu'on veut, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que ma prière a été efficace? Vous savez quoi? Ça n'a rien à voir avec ma prière, ou Dieu lui-même, ou les capacités de Dieu. Ça a à voir avec la volonté de Dieu. Et Dieu, il répond toujours aux prières de ses enfants. Il répond oui. Il répond non, ou il répond c'est pas le moment, tu attends. À nous de discerner les réponses que Dieu nous donne. À la fin de notre passage, Dieu se révèle de manière surprenante. Parce qu'à cause de leur prise de décision, les trois amis sont jetés effectivement dans la fournaise et Dieu ne les a pas épargnés de la fournaise. Non, ils sont jetés dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe? Soudain, on ne voit pas trois, mais quatre personnes dans le feu. Lisons les versets 24 et 25. Il est dit, il reprit et dit, alors il s'agit du roi, « Eh bien, je vois quatre hommes. » Alors, verset 24 d'abord. « Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. » C'est ce qu'on appelle en théologie une christophanie, ce qui est arrivé quelquefois dans l'Ancien Testament. Vous savez, Jésus n'est pas que le Jésus du Nouveau Testament, comme on pourrait le croire. Jésus s'est manifesté aussi dans l'Ancien Testament, avant sa venue par sa naissance virginale, dit-on, dans le Nouveau Testament. Le Christ apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Lui qui était l'égal du Père, lui qui faisait un avec le Père. Et Jésus, là, clairement, alors, le roi, il suppose que c'est un ange, hein, il le dit après. Et utiliser le terme, justement, de fils des dieux, c'est une façon de parler des anges. Et il le dit de sa perspective humaine, païenne. Mais il s'agit clairement d'une christophanie. Et Jésus apparaît dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et il dit ceci, versets 26 à 28. Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, serviteurs du Dieu très haut, mais rendez-vous compte les gens, serviteurs du Dieu très haut, que le gars dit. Sortez et venez. » Ils s'exécutent, ils sortirent du milieu du feu. Verset 27, « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne leur avait pas atteint. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. » Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, et c'est le roi qui parle. Hein. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Le roi Nabuchodonosor a eu une autre occasion de voir la manifestation de Dieu ici. Parce que déjà dans le chapitre 2, il avait eu affaire à cela. Daniel et ses amis sont venus avec un rêve que personne ne connaissait et avec sa signification. C'était là une occasion d'être convaincu. Et pourtant, là encore, Dieu lui fait grâce d'une autre occasion de voir sa gloire. Et il finit par reconnaître que celui-ci, celui qui était dans le feu, avec les trois amis, c'est le seul vrai Dieu. C'est pourquoi il dit après, « Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego, sera mis en pièces et sa maison réduite en un état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Vous savez, ce qui se passe ici, c'est que le nom de Dieu est proclamé partout dans l'Empire babylonien. Parce que Dieu s'est révélé dans la fournaise. Ce que je veux dire par là, c'est imaginez que ces gars-là avaient eu un passe-droit du roi. Imaginons que le roi dise, « Ok, vous voulez servir votre Dieu, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas... » Comme vous êtes mes hauts fonctionnaires, c'est pas grave. Ou cette fois-ci, vous passez. Qui aurait pu être témoin de la gloire de Dieu? Et vous savez quoi? C'est dans les difficultés que nos témoignages sont les plus fortes, les plus prégnantes. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il nous est dit de nous réjouir lorsque nous traversons les plus ou les pires difficultés. Réjouissez-vous. Rejoice. Pas le cas, parfois on pleure, on gémit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi, justement? Pourquoi moi? Et vous savez quoi? Parfois Dieu permettra que nous passions par l'épreuve du feu afin de démontrer sa fidélité dans la circonstance. Si Dieu devait empêcher que nous traversions des situations difficiles, comment pourrions-nous témoigner de sa fidélité? Comment? Si nous devions être exemptés de toute difficulté, de toute tribulation dans la vie, parce qu'il nous aurait fait quelques grâces, parce qu'il nous aurait écoutés, faire notre volonté au lieu de la sienne. Comment? Est-ce que nous aurions des témoignages sur nos lèvres de la bonté et de la fidélité de Dieu? Vous savez quoi? Parfois, je me pose des questions sur moi-même. Comment ça se fait que je sois encore debout, que je sois encore en vie, après autant d'années sur terre? Parce que je me dis le nombre de fois où je devais être mort. Déjà, quand j'étais petit, j'ai failli me noyer dans un accident de bateau. Vous vous rendez compte? Deux bateaux qui se croisent sur la mer? Improbable. J'étais parmi dans un des bateaux. Et l'autre bateau n'a trouvé personne d'autre à taper que moi. Le nombre de fois que j'aurais dû être mort, et Dieu y vient, il met sa main. Et là, une nation entière vient à découvrir qui est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego à cause du témoignage de ces bonhommes-là. À cause de trois personnes, de trois hommes qui se sont soumis à sa parole, à sa volonté, à cause de leur témoignage, à cause de leur foi ferme dans les capacités de Dieu à les secourir. Parfois, le plus grand miracle n'est pas que Dieu nous préserve ou nous empêche de traverser des situations difficiles, mais le fait qu'il se montre fidèle et bon dans la situation, au milieu de la tempête, dans le feu ardent. Voici ce que dit le Seigneur par la bouche du prophète Ésaïe dans le chapitre 42, ou 43 plutôt, de son livre, versets 2 à 3. Il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Que le Seigneur nous aide à avoir une confiance ferme dans le Dieu de notre salut.
Amen.
Amen. Je vous invite à la prière.